nuit de France Culture. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique.
La critique est l'art d'aimer. Elle est le fruit d'une passion qui ne se laisse pas dévorer par elle-même, mais aspire au contrôle d'une vigilante lucidité. En 1961, dans l'un de ses textes les plus fameux parus dans les cahiers du cinéma, Jean Douchet définissait en ces termes l'art de la critique. Compagnon de route et ami des jeunes Turcs de la Nouvelle Vague, auteur d'un livre sur Hitchcock, réalisateur de plusieurs courts-métrages, Douchet est avant tout un passeur, professeur de cinéma dont l'enseignement fut et demeure essentiellement oral. À l'été 2007, il proposait pour France Culture une série de 25 émissions intitulée « Une autre histoire du cinéma ». Il s'agira, expliquait-il en ouverture, de s'intéresser à l'évolution concomitante du langage cinématographique et de ses moyens. Nous partirons d'un constat, que le cinéma n'est pas un appareillage, caméra, projecteur, pellicule, etc., mais que c'est en partant, voire en se pliant à l'un ou plusieurs de ces éléments, que les plus grands cinéastes ont puisé leur inspiration. Après avoir parlé du cinéma des Lumières, d'Eisenstein, de Lang, de Ford ou encore de Kubrick, Douchet s'arrêtait, pour l'avant-dernière étape de ce parcours, sur le cas Godard. Une autre histoire du cinéma par Jean Douchet, le cinéma de Jean-Luc Godard, une émission diffusée pour la première fois sur France Culture le 23 août 2007.
Au revoir, Monsieur Lang.
Au revoir. À bientôt, j'espère.
Ulysse vers la mer.
Ulysse vers le mare.
Monsieur Lang, on est prêt.
Merci.
Silence autour.
Silencio si gira. Silencio.
Caméra.
Moteur.
Motore. Partito.
Jack.
Odissea 14702 prima.
Une autre histoire du cinéma.
Avanti.
Azione.
Par Jean Douchet et François Kodak.
Traveling.
Carello.
Aujourd'hui, Godard. Après Kubrick et la façon dont il a travaillé d'une manière totalement fermée sur son œuvre, passons à celui au contraire qui travaille le cinéma sur l'ouverture, c'est-à-dire Jean-Luc Godard. Bon, autant le dire tout de suite, Jean-Luc Godard est certainement l'une des figures clés, capitales dans l'histoire du cinéma et qui intervient dans le parcours même de ce cinéma d'une façon maintenant totalement nouvelle, si bien que déjà comme chez Rossellini, et après tout, il y a une continuité entre Rossellini et Godard, il y a eu un avant Godard et maintenant il y a un après Godard. Alors, ce qui est passionnant chez Godard, et qui convient tout à fait à la série d'émissions que nous vous proposons, c'est justement d'abord que c'est quelqu'un qui repense le cinéma, mais d'un point de vue matériel, c'est-à-dire en tant que le cinéma est une machine, et donc il faut tout la repenser entièrement, il faut donc poser tous les éléments afin de les reposer et de les redisposer autrement. Alors, d'abord, on regarde la caméra. On sait que Godard a une connaissance extrêmement poussée de l'histoire même des caméras, à quoi elles servent, pourquoi elles ont été inventées, et quels sont finalement les usages que l'on peut en tirer. Alors par exemple, il y a eu des missions comme ça où FR3 est venu le regarder tourner sur détective, et là où Godard s'en prend à son opérateur, son chef opérateur, et entre autres il lui dit, tu ne sais même pas pourquoi on a inventé la Riflex. La Riflex était une caméra en effet inventée par les nazis pour pouvoir filmer en direct les actualités même de la guerre au moment donc de 1940-45. Cette caméra aura un franc succès. Lui succédera une autre caméra qui, elle aussi, aura un grand succès, c'est-à-dire la Caméflex. Et la Caméflex, c'est la caméra que Godard veut pour son premier film, pour Un bout de souffle. Et il va prendre, justement, un chef opérateur qui n'appartient pas à la catégorie aristocratique des chefs opérateurs du cinéma, mais qui, au contraire, est un chef opérateur d'actualité, de reportage, donc de terrain. Et ce besoin que Godard a de Coutard est tout à fait normal, puisque avec Un bout de souffle, déjà à tout niveau, il reprend tous les éléments de la caméra, reprend tous les éléments de la façon de filmer et redispose tout d'une façon tellement révolutionnaire que le film surprit énormément à l'époque et que même encore aujourd'hui, beaucoup de ses trouvailles restent absolument nouvelles et tout à fait passionnantes. Ce problème d'ailleurs d'une caméra légère va en effet occuper Godard et dans les années 70, lorsque Moviola va inventer sa caméra qui est la Hatton et que cette caméra correspond le mieux à ce que désire Godard, et même Godard à ce moment-là ira s'installer à Grenoble auprès de Moviola pour véritablement vérifier et savoir qu'est-ce qu'il peut obtenir de cette caméra. D'autre part, justement, ces caméras légères ont aussi pour but, pour Godard, d'alléger la technique qui entoure le tournage, et en particulier l'équipe technique elle-même. Pourquoi, par exemple, se compliquer la vie en installant un travelling avec tous les machinistes qui sont nécessaires pour ce travail, la perte de temps que cela représente, donc la perte d'argent, alors qu'une simple poussette d'enfant dans laquelle se met l'opérateur permet tout aussi bien d'effectuer sur les Champs-Élysées, sans gêner qui que ce soit, et surtout sans que cela se voie, tous les mouvements d'appareil. Dans les années 70, donc, non seulement il va s'intéresser à la Hatton, mais en plus va expérimenter et explorer toutes les possibilités de la vidéo. Donc ce problème pour Godard de la technicité n'est pas quelque chose de secondaire, elle est véritablement liée à sa démarche et à sa volonté de repenser le cinéma d'une façon absolument neuve.
Bon, allô? Bon, alors vous partez au poisson, hein? D'accord? Merci. Oui, oui, un instant, les équipements, allô? Je vous rappelle.
Allô?
Bon, écoutez, allez, dépêchez-vous, je suis pressé, hein, faites vite.
Ah, bonjour, Liliane.
Alors, attention, minutes. Dans 3 minutes. Vous êtes prêts?
Prêt pour le 35.
Pour le 35? Bon, non, non, donnez-moi ça, c'est trop long. Prenez-le là-bas. Bon, d'accord.
À Pachala? Non, je vais le faire tout à l'heure. Il attend mon coup de fil aujourd'hui? Non, non, j'oublie pas. Bon, très bien. Bon, qu'est-ce que tu fais tout à l'heure?
Toutefois, la machine caméra n'est pas pour Godard un instrument pour imaginer le monde, c'est-à-dire le fuir, comme le font beaucoup de cinéastes. Au contraire, chez lui, pour reprendre l'expression de l'un de ses chefs opérateurs, Caroline Champotier, qui a fait plusieurs films pour lui, et qui dit « la caméra chez lui est là pour faire partie du monde ». L'utilisation des caméras légères sert à saisir la fugacité des événements, mais pour filmer l'univers, le ciel, la mer, la nature et ses paysages, Godard n'hésite pas à recourir aux anciennes caméras 35, qui, par leur stabilité et leur poids, donnent une vraie consistance aux choses du monde. Dans le même temps, et nécessairement, Godard analyse le fonctionnement de la caméra. Par exemple, il constate que l'élément principal d'une caméra est l'objectif. Alors, avec son goût du paradoxe, il pourrait dire que si on désigne optique principale un objectif, on ne peut donc pas filmer en subjectif. Et cela va être en effet extrêmement important dans sa façon de filmer. Cela aussi implique l'obligation de respecter et le vrai et le réel. Godard se met dans une démarche scientifique et, comme il le dit, considère qu'il est un chercheur. Il dit même « normalement, je devrais être payé par le CNRS et non pas par les producteurs de cinéma ». Il reprend donc, dans Prénom Carmen, la déclaration de l'artiste Picasso. « Je ne cherche pas, je trouve », pour l'inverser en « je ne trouve pas, je cherche ». C'est d'autant plus intéressant que c'est Godard lui-même qui, dans ce film, dit cette phrase, donc d'une certaine façon, avoue véritablement ce qu'il recherche lui-même. Il y a ensuite, par exemple, désir de regarder le mécanisme du fonctionnement d'une caméra. Pour ça, Godard n'hésite pas à reparcourir toute l'histoire du cinéma et même de remonter au pré-cinéma, de remonter à Marais, de remonter à Muybridge. Et, par exemple, ils n'utilisent pas pour des raisons dramatiques l'accéléré ou le ralenti. Ils ne sont pour lui que des possibilités d'étude du mouvement en le décomposant coup par coup. Prenons un exemple dans « Sauf qui peut la vie ». Il y a un moment où on voit Nathalie Baye faire de la bicyclette. Et en effet, il y a un moment où on a l'impression que le mouvement est ralenti et qu'elle a beaucoup de difficultés, donc il lui faut faire beaucoup d'efforts pour avancer la bicyclette. Et cela n'est pas fait dans une situation dramatique, cela est fait d'une façon tout à fait extérieure pour bien indiquer que, à la fois, en effet, le personnage et le rôle de la femme dans le monde aujourd'hui est un rôle difficile et que cela est traduit par cette façon de filmer, donc de décomposer le mouvement et donc de ne pas faire un ralenti, mais de faire des espèces de mouvements abrupts qui se succèdent par un jeu de rupture et qui à la fin se retrouve exactement dans le roulement normal d'une bicyclette. Là, c'est un exemple, mais il y a plein d'exemples comme ça chez Godard où tous les éléments donnés ne servent pas du tout à alimenter l'histoire et à la faire avancer, mais au contraire à avoir un point de vue sur cette histoire et donc à repenser l'histoire. Il y a aussi, par exemple, sur le mouvement de la caméra, d'autres recherches. Prenons les travelling, par exemple. Le premier travelling du mépris, c'est-à-dire qui fait l'ouverture sur lequel va se dérouler le générique, qui est d'ailleurs un générique non pas écrit, mais un générique oral dit par Godard lui-même. Et ce travelling est un travelling qui vient vers nous, donc perpendiculaire à nous, et ce travelling, c'est simplement pour indiquer toutes les sortes de difficultés et d'une certaine façon d'inutilité du travelling en tant que élément de travail de studio, alors que, comme on l'a dit, on peut faire des travelling de façon beaucoup plus simple et beaucoup plus facile. Mais c'est tout à fait normal dans Le Mépris, puisqu'on est dans un film, un grand spectacle, donc il est tout à fait logique que l'on montre la lourdeur de l'appareil pour bien faire comprendre aux spectateurs que c'est un film qui coûte d'une certaine façon assez cher. Et le mouvement d'appareil sert à ça. Mais aussi, par exemple, la critique de ce travelling dans Weekend qu'il fait. On sait qu'une bobine de film dans les années 60-70 dure 10 minutes et a pour longueur 300 mètres. Donc Godard va le prendre au pied de la lettre une fois de plus. Il va installer un travelling de 300 mètres de long sur lequel il va évidemment installer la caméra. Et la caméra va longer le spectacle qu'elle regarde. Et le spectacle qu'elle regarde, ce sont des voitures prises dans un embouteillage où chacun des personnages qui sont là cherche à passer le temps en attendant que l'embouteillage se débloque. Et cela, en effet, sur ces 300 mètres, la durée qui est une durée inutile, dans le sens où, là encore, on ne fait pas avancer l'action, mais au contraire, on ne fait que regarder des pertes de temps successives. L'essentiel est que l'on arrive à la fin, à un moment où, en effet, il y a un moment dramatique, on s'aperçoit que l'embouteillage est provoqué par un accident mortel. Mais il est vrai que Godard n'est pas parvenu à faire que son travelling dure 10 minutes exactement, il en fait à peu près 7 à 7 minutes et demie, mais l'idée était là, vous voulez que mon travelling dure une bobine, 300 mètres, et bien nous allons faire 300 mètres de travelling qui, d'une certaine façon, pour les autres cinéastes, ne sert strictement à rien.
C'est tout ce que vous savez?
Oui.
Je croyais qu'il faut des tas de choses, des langues.
Non. J'ai de la pellicule tellement sensible. C'est de l'agfa encore. Quand on photographie un visage, regardez-moi, on photographie l'âme qui est derrière. Elle était moins belle qu'hier après-midi. Oui, un peu. La photographie, c'est la vérité. Et le cinéma, c'est 24 fois la vérité par seconde. Vous vous appelez Véronica comment ? Elle n'a pas répondu tout de suite.
Maintenant, toujours dans cet examen de la caméra, ben, regardons la pellicule. Car il faut de la pellicule, bien évidemment. Alors, on vient déjà de le dire, la pellicule fait 300 mètres, à l'époque, une bobine fait 300 mètres. Là n'est pas la question. En revanche, il est extrêmement intéressant de regarder ce que fait Godard, c'est-à-dire la pellicule en tant que telle. La pellicule, c'est 24 images fixes, qui sont chaque fois séparées l'une de l'autre par une sorte d'obturation, c'est-à-dire une barre, donc chaque photo est un photogramme, et c'est le mouvement de la croix de Malte, donc de l'engrenage, qui va faire et qui va susciter la notion de mouvement. Donc, ce que retient Godard de ce constat, c'est que l'impression ou l'illusion de continuité du mouvement, donc de la vie, est quelque chose qui, au fond, est faux, et que, en revanche, c'est l'adoption de rupture, donc d'images indépendantes les unes des autres, qui, au fond, l'emporte. Donc, à ce moment-là, Godard va travailler absolument et totalement la notion de rupture, et son cinéma sera fait sur la rupture. Ce sera d'ailleurs une des raisons pour laquelle le spectateur ou le public aura du mal à s'intégrer dans un film de Godard. On peut dire d'ailleurs que dans ce constat qu'il fait, la pellicule est entraînée dans le couloir de la caméra, donc dramatiquement parlant, qu'est-ce que ça va donner ? C'est que les événements filmés seront eux aussi entraînés par le mouvement lui-même. Donc on est pris dans leur succession, mais sans aucune prise sur eux. Par exemple, si on retourne au travelling de week-end dont on a parlé tout précédemment, eh bien dans ce travelling, les personnages qui sont là présents sur l'écran n'ont aucune prise sur l'action. Ils sont là, dépendants de l'événement lui-même, et ils ne connaissent même pas cet événement. Donc on le constate et on reste sur la façon dont ils subissent l'événement, et ils le subissent d'ailleurs d'une façon très, très légère et sans réelle préoccupation. Chez Godard, d'ailleurs, de ce point de vue, le hasard mène le jeu. Bon, prenons la fameuse scène du mépris. Le mépris, on peut dire que se compose de trois scènes, ou en tout cas de trois moments importants. Premier moment, c'est le studio et la présentation de Bardot, producteur, etc., et à Fritz Lang. Le second, ce sera la scène entre le mari Piccoli et la femme Brigitte Bardot. Et la troisième, ce sera la conclusion, en fait, la conclusion qui se passe à Capri. Alors, cette scène qui va durer, elle aussi, à peu près une demi-heure. C'est-à-dire que les trois moments ont approximativement la même durée. Alors, dans cette scène, qu'est-ce qui se passe ? Il se passe que le mari, qui sait très bien qu'il a fait une faute et que cette faute a été saisie par son épouse, attend que son épouse lui fasse une scène, dans le sens faire une scène dans un ménage. Et la femme sait qu'il ne faut surtout pas qu'elle fasse cette scène, parce que si elle fait cette scène, ça sera la rupture et ce sera terrible. Donc Godard va travailler une scène pendant une demi-heure qui ne se fait pas, et ce qui se fait à ce moment-là, c'est la scène qui ne se fait pas. C'est-à-dire, comme les personnages n'ont ni destin, ni but, ils n'ont pas d'autre possibilité que de se déplacer. Godard ne filme dès lors que leur déplacement. Sa cinématographie est intimement liée à la chorégraphie. Les personnages n'ont aucun lieu dont ils sont propriétaires. La propriété chez Godard, comme chez Jean Renoir, est l'ennemi qui ne sait attaquer. Donc la quasi-totalité des lieux d'habitation ne sont pas meublés, ce sont des espaces vides, non pas habités, mais occupés provisoirement par des nomades. Le nomadisme est une des constantes aussi du cinéma de Godard. Et ce nomadisme est lié à sa réflexion politique. Car il faut quand même rappeler que chez Godard, la réflexion politique est au moins aussi importante que ce qu'il raconte par ailleurs, et que peut-être même, c'est ce qu'il y a de plus important. Non seulement il ne se contente pas de faire cet examen de passage de tous les ingrédients de la caméra et de ce qu'elle entraîne, mais en même temps, il voit aussi tous les à-côtés, sur comment un film se fait, c'est-à-dire la vérité et les aspects vrais d'un tournage de film. Par exemple, il va commencer un générique avec une succession de chèques. Voilà, l'opérateur, ce sera tant, le metteur en scène, ce sera tant, la vedette, ce sera tant, les figurants, ce seront tant, et on a une succession de chèques pour bien montrer que, d'abord, tout cela est lié à la notion d'argent, à la notion de productivité, à la notion d'industrialisation. Par exemple aussi, il n'hésite pas brutalement à montrer les figurants qui viennent dire « nous sommes les figurants de la coproduction étrangère ». Et donc, ils viennent venir ça devant nous, et c'est toute l'utilité de ces figurants, puisqu'ils sont payés en tant que tels pour des raisons X ou Y, et qu'à ce moment-là, puisqu'il faut les utiliser, ben, autant les utiliser immédiatement et directement, en tant qu'ils viennent dire aux spectateurs ben, « voilà, on est les figurants », et après, ils n'ont plus qu'à partir. Alors, évidemment aussi, le plaisir que Godard a de montrer les producteurs. C'est aussi vrai pour le mépris dans Passion, etc. Et de ce point de vue aussi, tous ceux qui font marcher la machine économique et qui, d'une certaine façon, perturbent et aliènent la vérité des êtres.
Un, deux, trois.
Bougez pas!
Maintenant, quittons la caméra pour passer à un autre moment de la création cinématographique et à un moment tout à fait capital qui est le montage. Supposons qu'on entre dans une salle de montage. Qu'est-ce qu'on voit ? On va voir une table de montage. La table de montage est constituée d'abord par un écran sur lequel on va pouvoir travailler le film et l'image. Immédiatement après cet écran, c'est-à-dire venant vers nous, nous avons une enrouleuse sur laquelle il y a une bobine accrochée à gauche et une bobine accrochée à droite, et évidemment la pellicule qui va de l'un à l'autre et sur laquelle on va travailler. Cette première bobine sera celle de l'image. Une seconde enrouleuse qui vient juste après l'image, et sur celle-là sera inscrite les paroles. Une troisième enrouleuse sur laquelle sera inscrite les bruits, le bruitage. Mettons une quatrième enrouleuse sur laquelle sera inscrite la musique. Là, c'est très schématique. Enfin, disons que ce sont les trois grandes bandes son qui travaillent sur un film. Bien sûr, pour en avoir 10, 20, 30, la question n'est pas là, il y a les mixages après, mais essentiellement, ce sont ces trois bandes-là. Et normalement, la quasi-totalité des cinéastes mettent ces trois bandes son au service de l'image. Elles sont là pour renforcer l'image, pour focaliser un moment dans l'image, et donc, d'une certaine façon, elles sont au service totalement de l'image. Godard dit, et après tout, je regarde ça, et il n'y a aucune raison de donner une priorité d'une bobine sur une autre bobine. Elles roulent à la même vitesse, elles sont exactement synchrones, elles sont parallèles, donc, à ce moment-là, on peut très bien passer d'une bobine à l'autre. Supposons que nous sommes à l'image, d'un seul coup, l'image peut très bien s'arrêter, nous avons un noir, et sur ce noir, nous allons avoir en revanche un bruit. Sur la parole, là aussi, la parole peut être d'un seul coup submergée et quasiment rendue inaudible par un bruitage extrêmement violent. Ça peut être un bruitage qui vient d'un café ou des choses comme ça, aucune importance. Et la musique, elle aussi, joue son rôle d'une façon indépendante. Ce jeu, qui est un jeu de superposition de différents éléments, que nous avons vu peut-être sur une table de montage d'une façon parallèle, Godard le réinstaure d'une façon verticale, c'est-à-dire nous allons avoir des couches différentes et des niveaux différents. À ce moment-là, il va s'en servir comme idée de travailler les niveaux de conscience. Prenons en exemple Petit Soldat. Le personnage du photographe, donc, est en train de photographier son modèle. Il parle d'une façon tout à fait indifférente, de choses, elle aussi, tout à fait indifférentes. Et puis, brutalement, on entend la voix du photographe avoir une opinion sur ce qu'il filme, en disant « elle avait les yeux bleus Velasquez ». comme si cette trouvaille venait d'une conscience subjective, mais qui est immédiatement objective. C'est-à-dire que Godard, justement, c'est là où on voit qu'il travaille la subjectivité, bien sûr, mais ne la met pas en avant, elle est simplement traitée d'une façon tout à fait objective. Comme dans la vie, on a d'un seul coup différents niveaux de conscience. Quand on parle à quelqu'un, à la fois on lui parle et en même temps on a une pensée sur lui ou une pensée sur autre chose. Et cette espèce de conjonction des différents éléments d'écoute font la substance même de la vie d'aujourd'hui et la vie moderne. Et c'est ce que Godard cherche à travailler et à traiter. Et ce parti pris nouveau du regard sur les éléments qui constituent le film vont lui permettre d'avoir des inventions absolument prodigieuses. Rappelons-nous dans « Sauf qui peut la vie », ce moment où la quatrième bobine, disons celle de la musique, qui est maintenant sur les baies en verticale, sont tout à fait en bas, c'est-à-dire la dernière bobine, celle qu'on n'a pas à voir, brutalement, l'orchestre qui joue cette musique surgit sur l'écran et est filmé sur l'écran. Donc, Godard va très très loin dans les possibilités que lui offre cette invention, je dirais, intervention en tant que trouvaille de la possibilité de disposer du montage et donc de le retravailler, de le repenser radicalement différemment.
Je suis très fier d'être français. Mais en même temps, je suis contre le nationalisme. On défend des idées, on défend pas des territoires. J'aime la France parce que j'aime Joachim du Bellay et Louis Aragon. J'aime l'Allemagne parce que j'aime Beethoven. Je n'aime pas Barcelone à cause de l'Espagne, mais j'aime l'Espagne parce qu'une ville comme Barcelone existe. Ou l'Amérique parce que j'aime les voitures américaines.
En fait, il y a une profonde cohérence dans l'univers de Godard. Filmer le monde selon la connaissance de la science moderne, tel est son but. Il a une vision atomique du monde où ne s'agitent que des particules. Il y aura donc chez lui la fin de la notion de durée. La durée est quelque chose de très important dans la dramaturgie classique. Il faut en effet qu'il y ait une durée de l'action, mais aussi une montée à l'intérieur de la durée, et que c'est justement cela qui fait marcher cette dramaturgie. Chez Godard, à partir du moment où il y a refus de la durée, il y aura donc juste une succession d'instants. C'est ce que nous disions précédemment dans l'idée qu'il ne filme que des déplacements. Il n'y a donc pas de montée, il n'y a que des successions. Et si on quitte à ce moment-là le qualitatif qui est celui de la durée, on entre nécessairement et on accepte et on subit la domination du quantitatif. Le cinéma de Godard est entièrement quantitatif. Un instant, un instant, un instant, un instant, c'est 1, 1, 1, 1. Et pas du tout 1 plus 1 faisant un 2, etc. Non. Alors, le qualitatif alors devient chez lui une nostalgie, une impossibilité constamment désirée. En fait, on est dans une démarche purement poétique à tonalité romantique. Quand on voit par exemple Pierrot le Fou, c'est extrêmement net. Pierrot le Fou est certainement l'un des personnages romantiques les plus présents dans le cinéma moderne, et on n'est pas très loin des héros romantiques de l'époque de Musset. Toute la fin de Pierrot le Fou, de ce point de vue, est absolument admirable. Tout ceci découle du fait que Godard est le premier cinéaste a tenté d'appliquer dans sa démarche dramatique les lois de la physique quantique. Et si on va encore plus loin, on se rend compte à ce moment-là que dans cette nostalgie, et donc dans cette nostalgie du qualitatif, il y a aussi un autre constat qui est pris en compte. C'est la mise en application de cette fameuse phrase de Valéry « Désormais, nous savons que toute civilisation est mortelle. » Et donc, Godard considère que notre civilisation a éclaté, qu'elle se survit à elle-même, mais qu'elle n'est plus du tout dans un temps de création, mais au contraire dans un temps de dispersion. Et on pourrait à ce moment-là s'amuser à prendre une image, comme quoi le cinéma de Godard serait comme une fusée qui traverserait l'espace et filmerait les débris de notre civilisation, dont les restes, les ruines, on voit encore des signaux qui s'entrechoquent les uns les autres, comme les ultimes messages d'un monde qui se meurt. Donc il y a écho, réponse, retentissement, mais en même temps et obligatoirement, la mise en place de ces échos, donc, chez Godard, un système constant qui oblige à la citation. Godard est le cinéaste des citations. Telle est l'actualité de notre époque, telle est la nécessité pour Godard de filmer absolument de manière actuelle. C'était une autre histoire du cinéma par Jean Doucher, son Jean-François Néolier, mixage Noélie Pellegrin, réalisation François Connac.
Vous aimez quand ça finit bien, mademoiselle ?
Ah oui, monsieur.
Moi aussi.
Cette émission a été diffusée pour la première fois sur France Culture le 23 août 2007. Vous pouvez la réécouter ou la télécharger sur le site franceculture.fr à la page des nuits. Thank you.